Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai souffert de phobie scolaire et je vais vous dire comment les jeux vidéo m'ont aidé à m'en sortir.
L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Et quand vous aurez le dos tourné, vos enfants vont s'en donner à cœur joie.
C'est vraiment bien, hein ?
Vous pourrez appeler partout, de n'importe où.
Interco ?
Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète.
C'est pas génial, ça ?
Des dépendances comme la drogue, c'est dépendant à ça.
Avec cet effet de boule de neige, vous entrez dans ce qu'on appelle les bulles cognitives, c'est-à-dire rester entre personnes qui pensent de la même façon.
Alors là, mon père, il va pas en revenir.
Ils ont entre 7 et 18 ans. Le digital, ils sont nés avec. Parfois, ils le subissent, souvent, ils le subliment. Codes sociaux, rapport à l'autre ou à soi, tout est revisité, repensé, questionné. Ils seront les utilisateurs et les concepteurs des réseaux, algorithmes et innovations de demain. Dès aujourd'hui, leurs opinions, leurs doutes et leurs rêves nous éclairent. Tout est question de philosophie, même les codes les plus binaires. À nous de penser et de repenser ces mondes qui nous effraient ou nous fascinent. Parfois les deux. Bienvenue dans Philosophie, le podcast qui donne la parole aux jeunes générations sur leur rapport au digital et qui encourage leurs aînés à ne pas faire la sourde oreille. Animé par Marilyn Perronnet, fondatrice de Digital School, et moi-même, Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche. Je retrouve pour ce nouvel épisode de Philosophie Marilyn. Salut Marilyn.
Salut Solène.
Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Paul.
Bonjour.
Salut Paul. Alors Paul, tu nous as dit en introduction que tu avais souffert de phobie scolaire.
Oui.
Ça touche entre 2 et 5% des enfants en France et on n'en parle jamais,
c'est
ou très
vrai.
Peu. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé ?
Alors, j'ai fait une rentrée au collège tout à fait banale jusqu'en quatrième où on m'a proposé d'être dans une classe dite numérique qui était censée m'aider avec par rapport à mon ordinateur en classe. Et au final, ça s'est pas bien passé du tout. J'ai souffert de moqueries entre guillemets de la part de mes professeurs, surtout d'un professeur de français qui me rabaissait. Et du coup, ça me donnait plus envie de travailler. J'avais des mauvais résultats dans toutes les matières. Et ça m'a totalement déprimé, et du coup, ça a fait que j'ai arrêté l'école, on va dire, en novembre, et jusqu'à la rentrée suivante.
Et alors, quand tu dis cette classe numérique, elle devait t'aider avec ton ordinateur, c'est parce que tu avais une dérogation ?
Oui.
Pour pouvoir utiliser ton ordinateur en classe ?
Oui, c'est ça, parce que en fait, je suis dyspraxique, et j'ai des problèmes pour écrire, du coup, j'ai besoin d'un ordinateur pour écrire mes cours.
Et du coup, dans cette classe dite numérique, le sujet, c'était que tous les élèves avec toi avaient un ordinateur.
Non, c'était pas ça. C'était en fait, l'école nous donnait une tablette avec un clavier pour que les jeunes commencent à utiliser l'ordinateur en cours, donc qu'on apprenne un peu à développer, un peu à utiliser un ordinateur, tout simplement. Sauf que moi, ça me servait pas du tout, parce que j'avais le mien, et du coup, j'étais obligé de me trimballer la tablette et mon ordinateur. Du coup, ça faisait un peu lourd dans mon sac.
Et les autres, ils en faisaient quoi de la tablette ?
Alors, tout sauf travailler.
Tout sauf travailler ?
Oui.
C'est-à-dire
ils allaient sur Internet, ils regardaient leurs vidéos en cours, ils jouaient à des jeux, enfin bref.
C'est la classe numérique jeux vidéo
dont
tous les collégiens rêvent.
Ouais, mais c'était pas terrible. Je crois d'ailleurs, ils ont arrêté cette classe dans cette école.
Et les profs réagissaient comment du coup ?
Ils savaient pas. Ils en avaient aucune idée de ce que faisaient les jeunes avec l'ordinateur, avec cette tablette du coup.
Ah, tu veux dire qu'en cours, tu avais par exemple le cours de maths,
ouais.
Tous les élèves et tes camarades avaient une tablette.
C'était pas dans tous les cours où on utilisait la tablette, mais quand les profs demandaient de l'utiliser, les jeunes faisaient ça.
Et du coup, l'enseignant n'avait pas de moyen de contrôle sur ce que faisaient les élèves pendant le temps. D'accord.
Et alors donc du coup, toi, tu t'es retrouvé à être déscolarisé en novembre.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ?
Au début, mes parents, ils comprenaient absolument pas ce qui m'arrivait. Ils me disaient, mais on va te forcer à aller à l'école, machin, c'est n'importe quoi. Mais au final, ils ont commencé à comprendre ce qui m'arrivait. Et donc après, on est allé voir des psys et un psychiatre par la suite, qui a expliqué que c'était plus possible pour moi d'aller à l'école. Et du coup, j'ai été en arrêt d'école pendant un bon bout de temps.
Et qu'est-ce qui se passe alors quand on est à la maison, mais l'école reste obligatoire ? Jusqu'à 16 ans. Donc,
oui.
Comment tu as pu continuer ton parcours scolaire ?
Clairement, pour moi, c'était impossible de travailler. Je pouvais plus rien faire et j'étais cloîtré chez moi. Et on va dire, j'ai fait un confinement avant l'heure. Et c'est très dur. C'est très long. et faut faire avec, mais voilà.
Et tu réussissais à garder contact avec certains amis pour pas être dans une solitude et un isolement
Alors, oui, un peu quand même, mais beaucoup moins que quand tu vas à l'école.
Ouais. Donc, le lien social, c'est quand même quelque chose d'essentiel.
Ouais, ouais. Et du coup, grâce à ça, ouais, on va dire grâce à ça, bah, je me suis mis un peu à jouer aux jeux vidéo. À l'époque, je jouais à Minecraft. Et en jouant, bah, j'ai commencé à sympathiser avec des gens qui sont devenus, entre guillemets, mes amis uniquement virtuels. Malheureusement, je ne joue plus avec eux de nos jours, mais bon, ça m'a beaucoup aidé quand même.
Ça t'a redonné confiance ?
Ça m'a surtout permis de parler à des gens et ça faisait du bien.
Dans le dernier épisode de Philosophie qu'on a diffusé, c'est Ella qui a 10 ans et qui aime bien jouer aussi à quelques jeux, donc elle plutôt sur le téléphone. Et elle dit « Moi, je joue, c'est pour gagner ». Et est-ce que ça t'a redonné confiance aussi de gagner ?
Non, c'était vraiment juste pour m'amuser et faire passer le temps parce que je m'ennuyais vraiment à mourir.
Et du coup, alors après cette période très dure pour toi, tu as pu réintégrer une école ?
Oui. Oui, donc j'ai intégré une école dite différente qui s'appelle l'école Steiner. Donc c'est une école de base où il n'y a pas d'écran, où les profs sont très, très gentils, très bienveillants envers les élèves. On est peu dans l'école. Dans l'école, au total, on est, je crois, 300. Et du coup, bah, ça fait qu'on est genre 15, 20 par classe maximum. Et du coup, bah, y a des vrais échanges avec les professeurs et c'est super bien dans cette école.
Et du coup, pour information, hein, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'école Steiner, qui est une méthode pédagogique alternative, hein, qui est souvent un peu aussi comparée à celle de Maria Montessori, mais pas totalement. C'est aussi dans cette école-là qu'en Californie, tous les entrepreneurs de la tech mettent leurs enfants. Alors, tu vas nous raconter un peu le quotidien de cette école, Paul. Mm-hmm. Mais ce que j'en ai vu notamment sur la Steiner Waldorf aux États-Unis, c'est que non seulement il n'y a pas d'écran, évidemment, jusqu'à au moins 15-16 ans.
Mais...
Et puis, les apprentissages se font les fondamentaux plutôt le matin.
Oui, c'est vrai.
C'est ça. Et l'après-midi, tu es plutôt aussi en lien avec la nature ou tu fais des choses dehors. Comment ça se passe concrètement, justement ?
Comment ça se passe ? Donc oui, il y a les apprentissages principaux le matin. Donc c'est à 2 heures d'une matière pendant 3 semaines chaque jour. Et donc ça permet donc d'approfondir la matière en question et de l'apprendre plus facilement, je dirais, qu'en ayant un cours de maths puis un cours d'anglais pendant toute l'année. Et... du coup, ça marche par période et en général, à la fin de cette période, t'as une évaluation sur ce que t'as fait. Et l'après-midi, bah, t'as quand même des cours classiques, puisque moi, je suis rentré à partir du collège, donc il y a quand même des cours classiques. Mais il y a aussi d'autres cours, donc il y a des cours d'eurythmie, de bois, et de couture et de forge aussi. Et donc, c'est des activités qui sont en plus dans notre journée, qui sont une à deux fois par semaine. Et c'est intéressant à faire.
Et du coup, toi, ça t'a permis de reprendre aussi confiance en toi avec des enseignants comme l'effectif était plus réduit.
Oui.
Avoir déjà un échange plus bienveillant à ton rythme aussi.
Mm-hmm.
Et de reprendre confiance en toi sur les apprentissages.
Oui, ça m'a aidé, oui.
Et qu'est-ce que ça t'apporte de faire aussi des choses avec tes mains, finalement ?
Alors moi, franchement, je ne faisais pas grand-chose pendant ces trucs. On s'amusait juste beaucoup avec mes amis, mais en vrai, c'est marrant d'apprendre des trucs, apprendre à faire de la couture, même si j'en ai pas beaucoup fait, c'était plutôt drôle.
Du coup, maintenant, tu sais recoudre un bouton ?
Non.
Bon, en tout cas, tu sais que pour recoudre un bouton, pour l'instant, c'est pas encore un algorithme.
C'est ça.
Voilà. Et alors, du coup, dans cette école, elle était en région parisienne ?
Ouais, elle est assez située à Verrières-le-Buisson, juste à côté de chez moi, du coup. Et
du coup, tu y es toujours ou
Non, j'y suis plus à l'heure actuelle. Parce qu'ils font pas donc, ma spécialité que j'ai pris en première, qui est la spécialité STMG.
D'accord. Et si ils avaient fait cette spécialité, tu serais resté dans cette pédagogie ? Qu'est-ce qui t'a le plus engagé, passionné, justement ?
Ce qui m'a le plus plu, déjà, c'est les gens qui sont dans cette école sont vraiment super sympas, tous, tant qu'ils sont. Et j'aimais bien aussi les professeurs, on s'entendait vraiment bien, il y avait vraiment un échange qu'on pouvait créer avec les professeurs, grosso modo le professeur était notre égal, on pouvait pas discuter avec lui, on pouvait le tutoyer sans aucun problème, et donc ça je trouve ça vraiment bien, mais malheureusement je suis plus dans cette école, mais c'était une bonne période de ma vie. Ouais.
Oui, donc le lien avec l'enseignant privilégié qui n'est pas sur une hiérarchie, on va dire.
Ouais, enfin, il y a quand même une hiérarchie, mais c'est plus soft que dans des lycées plus traditionnels.
Tu veux dire que l'apprentissage est moins descendant?
Ouais. Il y a vraiment, tu peux vraiment discuter avec le professeur sans aucun problème et c'est super bien.
Et comment ça a été pris que toi, tu viennes avec ton ordinateur, sachant qu'ils sont plutôt sans les écrans?
Alors, j'étais un peu comme un ovni, on va dire. mais
c'était Paul, celui qui a l'ordinateur.
C'est ça. Mais même avant, dans mon ancienne école, c'était la même chose. Ils se sont adaptés, ils m'ont proposé de... c'est surtout à chaque fois, quand je rentre dans une nouvelle école ou dans une classe chaque année, c'est une adaptation. Entre moi et les professeurs, et ça se fait, en fait c'est en fonction des professeurs en général, donc soit j'envoyais des mails, soit j'allais imprimer, donc voilà, ça dépend des professeurs vraiment.
Et les professeurs, ils font aussi de la pédagogie par rapport aux autres élèves de la classe?
De la pédagogie, c'est-à-dire
dans le sens, parce qu'il y en a qui pourraient dire Paul il prend son ordinateur, pourquoi moi je pourrais pas aussi prendre mes cours sur mon ordinateur?
C'est juste parce que moi j'avais, du coup je suis dyspraxique et du coup j'ai des droits, mais enfin j'ai eu le droit d'avoir mon ordinateur, mais ceux qui demandaient ça, on leur disait tout simplement non, tu peux pas, t'as pas besoin, et voilà, ils faisaient avec.
Et est-ce que certains de tes camarades de classe venaient aussi te voir à la récré ou pendant les pauses pour voir des trucs sur internet ou jouer avec ton ordinateur?
Alors ça c'était surtout dans mon ancienne école, ouais, donc Et au début, vraiment, la première année, c'était les gens, ils tournaient autour de moi, ils se demandaient ce que je faisais avec. Et moi, j'ai toujours su rester sérieux avec mon ordinateur, c'est-à-dire j'ai jamais vraiment joué en cours, ni quoi que ce soit.
Le dilemme algorithmique.
Alors Paul, justement, comme on est dans un sujet d'éducation enseignant, si tu devais être demain le maître de l'éducation et décider, est-ce qu'il vaudrait mieux avoir des enseignants en présentiel ou des enseignants virtuels?
En présentiel, c'est quand même mieux.
Et pourquoi?
Parce que les élèves peuvent beaucoup mieux suivre, parce que là, en ce moment, je suis en distanciel personnellement, et la plupart des élèves ne parlent pas, ne font rien derrière leur écran, j'en suis persuadé. Et même sont pas dans des bonnes conditions pour travailler. Et ça doit être très compliqué pour eux. Et même pour moi, même si j'ai du bon matériel pour travailler, j'ai du mal à me concentrer, c'est plus dur.
Parce que tu veux dire que l'interaction, elle est essentielle?
Oui, l'interaction, ouais, c'est essentiel pour bien travailler en classe.
Et ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes en cours en distanciel, qu'on comprenne bien, hein, Solène et moi, en fait, tu as ton enseignant, ton prof qui est derrière en visio, derrière un Zoom ou autre, peu importe, il fait le cours comme il l'aurait fait en classe,
c'est ça.
D'accord? Mais vous pouvez couper votre caméra.
Il n'y a pas de caméra, personne dans ma classe met une caméra. Déjà, il manque beaucoup d'élèves. Genre...
Ah bon? Mais qu'est-ce qu'ils font?
Mais ils n'y vont pas, en fait, ils s'en foutent. Clairement, ils disent, ça ne sert à rien, on n'y va pas, et voilà.
D'accord, donc déjà, il n'y a pas de caméra, tout le monde n'est pas là,
ouais.
L'enseignant fait son cours, mais il n'y a pas d'interaction, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure, par exemple,
il y a très peu d'interaction.
Il finit son cours et il s'en va.
C'est ça, nous on dit au revoir et voilà.
Mais même pour le prof, parler devant des écrans noirs, c'est
horrible.
Ça doit
être horrible, oui, je pense.
C'est comme un webinaire quand on est tout seul, c'est un peu bizarre.
Et est-ce que tu as des profs qui ont mis en place des trucs pour que ce soit un peu plus interactif, justement?
Malheureusement, non. Non, ils essayent de faire comme ils peuvent pour que le cours soit suivi, mais je pense que la plupart des élèves ne suivent pas le cours. Même moi, j'ai vraiment du mal et il y a des cours que je suis pas.
Et t'aurais des idées, toi, pour justement rendre dynamique tout ça?
Obliger les élèves à utiliser un micro, déjà, pour commencer. Et,
toi, en tant que gamer, du coup, t'avais le micro?
Oui, oui, j'ai un micro, oui.
La base.
Oui, c'est un peu essentiel, mais c'est assez compliqué puisque les élèves, ils sont... c'est juste qu'en distanciel, pour moi, c'est pas possible, en fait.
Et t'appréhendes les... Parce que là, tu as des examens à la fin de l'année. Est-ce que t'appréhendes ces examens? Ils vont se passer dans quelles circonstances?
Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que c'est maintenu. Donc, les épreuves de français écrites et orales sont maintenues. Et on sait juste pas si ça va être annulé ou pas, parce que on est un peu dans le flou, mais pour l'instant on considère que on doit réviser normalement pour notre bac.
Un oral de français en distanciel, ça donnerait quoi pour toi ?
Non, pas possible. pas envisageable, puisque trop de facilité pour tricher.
Ah oui, ouais. C'est vrai.
Bah oui.
Oui, et puis en plus, l'épreuve de français à l'oral, ça se vit quelque part, quel que soit le texte que tu choisis.
Oui.
C'est un échange.
C'est un échange avec le...
Voilà.
Quand on a préparé cette émission, Paul, tu nous as parlé d'une de tes passions autour des ordinateurs.
Effectivement. Donc,
tu peux nous raconter ?
Ouais, pas de problème. Donc en tant que joueur, moi j'ai jamais joué sur... Enfin, j'ai joué un peu dans ma jeunesse sur console, donc sur une Wii et sur une PS3.
Dans ma jeunesse. Ouais, quand quel âge, Paul ?
Oui, bon, ok. Quand j'étais plus jeune. Donc j'ai joué sur une Wii, une PS3 et une GameCube. Mais après, j'ai décidé de... Quand j'en avais un peu marre de la console, je me suis vraiment renseigné sur le monde des ordinateurs, du coup. Et du coup, bah, j'ai décidé de... Au bout de quelques... Enfin, j'ai commencé sur un PC portable, et au bout de quelques années sur mon PC portable, j'en ai eu marre. Et j'ai décidé de m'acheter donc des composants d'ordinateur et de le monter moi-même. Donc au début, mes parents me disaient, mais non, tu vas pas faire ça, on va acheter un ordinateur tout monté, comme tout le monde. Et au final, bah, je leur ai dit, bah non, je veux faire ça. Ils ont fini par dire, ok, mais tu le fais avec ton oncle, parce qu'on sait pas comment ça marche, nous. Même si moi, je m'étais énormément renseigné en regardant des vidéos YouTube, que ce soit en anglais, en français.
Oui, parce que comment tu sais ce qu'il faut acheter ?
Ah bah ça, c'est juste ta décompatibilité entre certains composants, et ouais. Donc tu les achètes en fonction.
Et où est-ce que tu t'es renseigné pour tout ça ?
J'ai essentiellement regardé des vidéos YouTube, que ce soit en anglais, en français.
D'accord. De gamers ?
De gamers ou non, pas forcément, de parce qu'il y a plein de gens qui montent leur ordinateur eux-mêmes. D'accord. Parce que c'est... d'une part, tu sais ce que tu mets dedans, tu peux choisir ce que tu veux, ça revient peut-être à moins cher, et... Et il y a un aspect ludique à le faire.
Mais alors, attends, c'est incroyable que je comprenne bien. Tu l'as monté de rien ou tu l'as tuné avec un ordinateur qui existait déjà ?
Non, j'ai acheté toutes les pièces et je l'ai monté tout seul.
T'as créé ton propre ordinateur ?
On peut dire ça comme ça, oui.
Oh, c'est génial !
Ça permettait d'avoir plus de puissance pour tes jeux ?
Oui. Oui, bah, vu que tu choisis des composants, bah, oui, tu peux choisir si tu préfères. Oui, tu peux, ça permet d'avoir plus de puissance dans ces jeux, oui.
Et alors moi qui n'y connais rien aux jeux vidéo, et il y a peut-être des parents aussi qui nous écoutent et qui sont un peu comme moi, c'est quoi la différence entre jouer sur une console et jouer sur un ordinateur ?
Jouer sur une console, je dirais c'est plus facile d'accès, parce que c'est plus simple, t'as juste une manette, tu t'embêtes pas. Et jouer sur un PC, c'est déjà, tu peux choisir, il y a beaucoup plus de jeux sur ordinateur que sur console, les jeux sont souvent moins chers. C'est le cas. T'as pas d'abonnement pour payer pour jouer en ligne. Mmh. Et au final, t'as surtout une diversité d'équipements plus variés que sur console. Donc tu peux jouer au clavier, à la souris, comme à la manette, comme avec un casque de réalité virtuelle.
Et du coup, sur le clavier, t'as des combinaisons que tu peux faire pour faire des sauts particuliers, t'as des trucs secrets sur les...
Non, pas du tout, c'est un clavier basique.
Il a pas des couleurs, moi j'ai vu
si, moi le mien a des couleurs, oui.
Oui, le clavier, il a des touches de couleurs, hein, on est d'accord.
Oui, bah, ça dépend, tu peux en acheter avec, tu peux acheter des claviers avec des couleurs ou d'autres,
mais
non.
Mais ça n'a pas une fonctionnalité particulière.
Non, c'est juste pour faire joli.
Moi je rêvais, je me disais en fait, il doit y avoir un code.
Mais par contre, les claviers, c'est des claviers qui fonctionnent différemment que des claviers par exemple d'ordinateur portable. Donc moi personnellement, j'utilise un clavier qu'on appelle mécanique. C'est avec ce qu'on appelle des switches qui permettent d'activer les touches beaucoup plus rapidement qu'un clavier dit à membrane, donc plus basique.
D'accord, donc tu gagnes quand même du temps dans ta partie.
Oui, c'est des millisecondes certes, mais ça compte.
Ah bah,
en revanche, tu es obligé de jouer là où est ton ordinateur.
Oui.
Est-ce que du coup, il y a un sentiment de solitude ?
Oh non, pas du tout.
Parce que tu te connectes avec les autres gamers.
Oui, au final, je joue avec mes amis et ça change rien.
Oui, juste tu restes chez toi.
Oui.
Ce qui est pratique quand on est confiné.
Oui, c'est vrai, ça marche plutôt bien.
Et t'as d'autres consoles que t'emmènes, par exemple, quand tu pars en vacances ou dans les transports ?
Non, pas du tout.
Non, c'est que ordinateur.
J'ai que mon ordinateur, ouais. Pour jouer en tout cas, j'ai que mon ordinateur.
Swipe. Alors Paul, si tu devais vendre les ordinateurs que tu as montés, imaginons que tu en montes une dizaine de milliers, à qui tu les vendrais en premier ?
À mes amis, je pense. À mes amis gamers, du coup.
Donc, ce serait un business model pour les gamers.
Ouais, je pense.
Génial. Et alors, est-ce que tu rajouterais des nouvelles fonctionnalités, tiens, maintenant, auxquelles tu n'avais pas forcément pensé et que tu aimerais avoir ?
Non, pas spécialement, non. je montrais des machines, enfin, je leur ferais des machines assez performantes pour qu'ils puissent jouer à n'importe quel jeu sans aucun problème.
Et du coup, tu continues à te renseigner sur les dernières choses qui sortent?
Oui, je continue, oui. Ça c'est au quotidien, à la limite. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube et ça en parle beaucoup de tous les composants qui sortent. Et donc, je me renseigne quasiment en continu. Ouais.
Alors justement, Paul, il y a beaucoup de chaînes YouTube de gamers. On en parle de plus en plus. Il y a même de plus en plus d'enfants, n'est-ce pas, qui, dès l'âge de 10 ans, se disent je vais monter ma chaîne YouTube sur la Switch ou sur d'autres jeux et d'autres consoles. Toi, il y en a que tu regardes, il y en a que tu suis. Est-ce que tu as eu envie de monter ta chaîne?
Non. Non, c'est jamais une idée qui m'est passée par la tête parce que je pense que de nos jours, c'est littéralement impossible de monter beaucoup. Enfin, il faut avoir de l'aide d'autres personnes. Et donc, de mon niveau, je ne pense pas pouvoir... Enfin, je pense qu'à l'heure actuelle, pour être connu sur Internet et sur YouTube ou sur Twitch, par exemple, il faut soit avoir un niveau exceptionnel sur les jeux vidéo, ce qui n'est pas le cas pour moi, ou avoir des nouvelles idées qui sont pas du tout connues, et ça, faut vraiment se creuser la tête, et c'est pas mon genre.
Et tu t'en suis, toi, des gamers?
Un peu, oui, mais pas spécialement, non. Je regarde pas des masses de vidéos sur les jeux.
Et sur Twitch, t'y es beaucoup?
Non, pas du tout. Je ne regarde aucun live.
Swipe. Paul, une autre de tes passions, quand je t'ai demandé si, en préparant cette émission, si du coup tu voulais en faire ton métier de travailler dans les ordinateurs, tu m'as dit non, toi, ta passion, ça serait de travailler...
Dans l'automobile. Oui.
Et du coup, j'ai une question que j'aime bien poser à nos invités. Est-ce que d'ici quelques années, là, tu vas avoir le permis? Est-ce que tu préfères conduire une voiture autonome ou conduire toi-même?
Ah, conduire moi-même. Tant que je peux conduire moi-même, je conduirai moi-même.
Pourquoi?
Parce que pour moi, c'est je conduirais dans un objectif de plaisir de conduite,
ouais.
Parce que j'aime bien ça, et parce que, ou à part peut-être sur des longs trajets, ouais, les voitures autonomes, pourquoi pas, mais sinon...
Pour pouvoir dormir un petit peu.
C'est ça.
Ou jouer?
Non, pas jouer. Non.
Tu pourrais pas installer tout ton matériel
Ça risque d'être compliqué.
Swipe. Alors, Paul, de la voiture à la voiture autonome, dans ma tête, j'ai fait une association d'idées Tesla, Elon, Thomas Pesquet. Donc, si tu pouvais partir toi aussi dans l'espace, ou si tu avais pu partir avec Thomas Pesquet dans le Crew Dragon, qu'est-ce que tu aurais emmené, sachant que la contrainte, tu la connais peut-être, c'est que ça rentre dans une boîte à chaussures et ne fasse pas plus d'un kilo deux.
Pour continuer à jouer aux jeux vidéo, je pense que j'aurais pris une Switch.
Et quel jeu?
Mario Kart.
Swipe. À ton avis, Paul, restons un peu dans la galaxie, c'est quoi le côté obscur du digital pour toi?
Le côté obscur, c'est quand tu n'arrives plus à te détacher du jeu vidéo et donc de ne plus rien faire d'autre que d'être devant ton ordi ou ta console toute la journée. Enfin, je veux dire, quand ne pas te détacher, c'est vraiment ne plus rien faire, au point de ne plus aller manger, de plus vouloir aller aux toilettes, de plus vouloir sortir, de plus vouloir aller à l'école. Et ça, ouais, je pense que c'est le côté obscur.
Tu connais des gens à qui c'est arrivé?
Non. Non, je connais personne à qui c'est arrivé.
On ne peut pas les connaître puisqu'ils sont enfermés chez eux. Oui, c'est comme tout le monde.
C'est sûr.
Et là, tu parlais des jeux vidéo, ta consommation des réseaux sociaux.
Alors, je m'en sers un peu, pas des masses, mais je m'en sers un peu, surtout pour communiquer avec mes amis, en fait, tout simplement.
D'accord. Et tu passes pas trop de temps? Tu passes plus de temps à jouer que d'être sur les réseaux sociaux?
Oui, je passe beaucoup plus de temps à jouer que d'être sur les réseaux sociaux.
Nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais le oui de Paul, il y avait plein d'étoiles dans ses yeux. Swipe. À ton avis, Paul, vous, les jeunes adultes, est-ce que vous êtes plutôt des followers ou des philosophes?
Des followers, je dirais.
Pourquoi?
Parce qu'on suit beaucoup des gens du coup sur Internet, et c'est, je pense que ouais, on est des followers pour ça, en fait.
Mais est-ce que comment vous faites du coup pour aiguiser votre esprit critique?
Ouais, on a un côté philosophe, mais on suit beaucoup les gens, donc je pense que les deux sont, c'est un mélange des deux, je dirais.
Et comment justement on entretient ce côté philosophe, selon toi?
En toujours en discutant avec des gens de plein de sujets différents. Et c'est comme ça tu crées ton propre avis par rapport à celui des autres et le tien. Et voilà.
En continuant à s'ouvrir aux autres.
Ouais, c'est ça.
Et à garder l'esprit critique.
Mm-hmm.
Swipe. Paul, si tu étais un super codeur, quelle application tu aimerais créer ?
Je pense un nouveau jeu, clairement.
Et il ferait quoi ce nouveau jeu ?
Un jeu qui n'ait pas de problème de bug ou quoi que ce soit. Vraiment un jeu sans aucun problème.
Mais un jeu qui aurait lieu, je sais pas moi, dans l'espace, en sous-marin
Non, je pense pas. Je pense que je développerais une sorte de nouveau Counter-Strike, je dirais.
Ah ouais?
Donc, ouais, voilà.
Et t'as jamais eu envie de coder, justement, pour apprendre à faire des jeux?
J'ai essayé. Et j'ai abandonné vite fait.
Ah zut! Non, mais on va y remédier.
Marine a la technique pour ça.
T'inquiète.
Paul, qu'est-ce que tu voudrais dire, toi, aux plus jeunes qui t'ont écouté ou qui t'écouteront par rapport au digital, au jeu, au numérique?
Je leur dirais que faut pas oublier qu'il y a une vie réelle et que c'est bien les jeux vidéo, c'est bien de jouer et tout. Moi, je suis pour ça, mais faut pas oublier qu'il y a d'autres choses à faire dans la vie. Faites du sport, sortez, voyez vos amis dans la vraie vie, c'est aussi bien.
Alors c'est rigolo ce que tu dis parce qu'on a eu un invité, Gus, qui passe son bac bientôt et qui, pour se concentrer, a ôté toutes les apps des réseaux sociaux pour ne plus être déconcentré.
Mmh.
Et il avait à peu près le même discours que toi. Et on lui a dit, mais quand toi, tu étais tout le temps en train de jouer et que tu étais sur ton téléphone, tes parents, ils t'ont dit d'arrêter, mais tu les as pas écoutés. Et toi, qu'est-ce que tu leur dirais pour que vraiment ils t'écoutent?
De qui? Les jeunes?
Ouais.
Je pense qu'il y a un temps à tout. Donc, par exemple, si tu as des devoirs à faire, il faut mieux les faire avant de jouer. Comme ça, tu te dis que tu es tranquille après et il n'y a pas de problème.
Les devoirs avant les jeux.
Ouais.
Plus vite tu fais des devoirs, plus vite tu vas gagner.
Pas trop vite. Pas trop vite.
Pas trop vite, non.
Il faut les faire correctement.
Bien. Voilà. Exactement.
C'est pas facile de le faire, mais il faut quand même le faire.
On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Paul.
Bah de rien.
Merci, Paul.
Si tu devais choisir les hashtags de cette émission, tu dirais quoi ?
Je dirais hashtag informatique, numérique, phobie scolaire et jeux vidéo. Et hashtag philosophie.
Et est-ce que tu as un message pour des parents qui pourraient nous écouter ou des enfants qui pourraient nous écouter aussi et qui souffrent de cette phobie scolaire ?
Un message pour eux, bon courage parce que c'est vraiment pas facile, mais sachez que ça va finir par passer et après quand vous serez sortis de cette merde, ça sera encore mieux pour vous et vous serez super content. Voilà.
Et quand on voit Paul, parce qu'on a la chance d'être à côté de Paul, c'est un vrai coup de cœur, Paul. Vraiment, merci beaucoup.
Bah de rien.
Merci beaucoup pour ton témoignage, Paul.
Y a pas de souci.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Salut Marilyn.
Salut Solène.